Bonjour à chacun. Une joie de vous retrouver ce matin. Du coup, j'avais préparé des petites fiches pour suivre la prédication. Ça intéresse quelqu'un? Non? Excellent. Je suis particulièrement content ce matin de reprendre avec vous le livre de l'Exode après la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est un peu particulier parce qu'on entame une nouvelle grande section du livre. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait découpé le livre en trois grandes parties. La première, c'était le Dieu de gloire se révèle à son peuple en le délivrant de l'esclavage égyptien. La deuxième partie qu'on entame ce matin, le Dieu de gloire se révèle à son peuple en faisant alliance avec lui. Et la troisième partie, le Dieu de gloire se révèle à son peuple en venant habiter au milieu de lui. Et aujourd'hui donc, on entame la deuxième grande section qui concerne l'alliance que Dieu vient faire avec son peuple au mont Sinaï. Et le chapitre qu'on va faire ce matin, c'est comme une sorte d'introduction à cette nouvelle grande section où Dieu se manifeste d'une manière particulière. Dieu se révèle d'une manière particulière. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de l'Exode au chapitre 19. Si vous avez des Bibles blanches, c'est à la page 53. J'ai coupé ce chapitre en deux parties et je vais lire la première partie, c'est les 8 premiers versets. Exode 19, 1 à 8. Le jour même du troisième mois après leur sortie d'Égypte, les Israélites arrivèrent au désert du Sinaï. Partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en annonçant « Voici ce que tu diras à la famille de Jacob, ce que tu communiqueras aux Israélites. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement. » parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. » Moïse vint appeler les anciens du peuple et leur exposa toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Deux parties ce matin. Deux parties inégales dans la longueur du texte, mais je traiterai chacune des parties de la même manière. La première partie, j'aimerais qu'on voit ensemble quand Dieu révèle sa grâce et sa délivrance, répondons par l'obéissance. Quand Dieu révèle sa grâce et sa délivrance, répondons par l'obéissance. Le peuple est au pied du mont Sinaï. Il va rester là jusqu'à la fin du livre d'Exode. Tout ce qu'on lira après ce chapitre-là se passera au pied de cette montagne du mont Sinaï. Il va rester là près d'un an. On l'apprend dans le livre des Nombres. Et le texte commence avec Moïse qui monte vers Dieu. Et si on a lu depuis le début le livre de l'Exode, cela nous rappelle quelque chose peut-être. Ça nous rappelle la manière dont Moïse s'est déjà manifesté, dont Dieu s'est déjà manifesté à Moïse, aussi sur une montagne, dans le buisson ardent. C'est au chapitre 3. Et Moïse lui avait dit, « Je suis avec toi, et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. » L'épisode dans le chapitre 19 qu'on lit ce matin, c'est donc l'accomplissement de ce que Dieu avait promis à Moïse en Exode 3. Et dans ce passage, les versets 4, 5, 6 sont d'une importance capitale pour le peuple d'Israël en particulier, mais aussi pour l'Ancien Testament en général. Il y a même un commentateur qui a dit que ces trois versets, c'était le cœur de l'Ancien Testament. Et je vous propose qu'on regarde ça de plus près ce matin. On remarque dans ces trois versets que Dieu parle successivement de délivrance, verset 4, d'obéissance et d'appartenance, verset 5, et de sainteté, au verset 6. Et en fait, quand on prend un peu de recul, on se rend compte que c'est aussi les trois grandes parties du livre de l'Exode. Délivrance, alliance, obéissance et sainteté. Et je vous propose qu'on prenne quelques temps sur chacun de ces aspects. Avant, une petite note. Je vais parler en prenant ce texte de principe. Il faut faire attention quand on lit un texte de l'Ancien Testament de ne pas se l'approprier directement. Le peuple et sa situation n'est pas la même que notre situation. Mais des grands principes demeurent. Donc aujourd'hui, je vais regarder les principes qui demeurent en essayant de voir aussi quelle est la différence et pourquoi on ne peut pas s'approprier directement ce qu'on lit. Et ça, c'est des choses aussi qu'on va voir ensemble dans le cours, mieux comprendre ce que Dieu dit. Premier aspect, délivrance, verset 4. Un des grands principes de la Bible en général et de l'Exode en particulier, c'est que la délivrance précède l'obéissance. La délivrance précède l'obéissance. Et dans le livre de l'Exode, et on a pu le voir ces derniers mois, la délivrance montre la grâce de Dieu qui délivre son peuple en vertu de son amour. Et cette délivrance montre aussi la fidélité de Dieu qui délivre son peuple en vertu de ses promesses. Et si Dieu délivre son peuple, et on l'a vu particulièrement les derniers chapitres qu'on a lus, depuis le chapitre 15 jusqu'au chapitre 18 la dernière fois, où le peuple ne fait que se plaindre alors qu'il vient d'être délivré. Si Dieu délivre son peuple, ce n'est pas en vertu de la fidélité du peuple, c'est en vertu de la fidélité de Dieu. Et s'il délivre son peuple, ce n'est pas non plus parce que son peuple le mérite, mais c'est à cause de la grâce de Dieu. Et ça, c'est un principe qui demeure aujourd'hui. Dieu ne délivre personne en fonction de sa fidélité ou de son mérite, mais en fonction de la fidélité de Dieu et de sa grâce. Et si on regarde la manière dont Dieu évoque cette délivrance, on voit tout le soin que Dieu a. Il dit, je vous ai porté comme sur des ailes d'aigle, comme une mère porte ses petits. Et le but de Dieu, ce n'est pas juste de les délivrer du pays d'Égypte, c'est de les amener près de lui. Dieu dit, je vous ai fait venir vers moi. Et quand Dieu nous délivre, il nous amène à lui. Ce n'est pas juste une délivrance hors d'eux, c'est une délivrance près de Dieu. Verset 5, l'obéissance. Dieu l'avait déjà dit à Moïse, on vient de le relire, « Je vais délivrer le peuple pour qu'il me serve. » Et on avait vu ce contraste déjà dès le début, où le Pharaon se présentait un peu comme le Dieu du peuple, où il demandait au peuple de le servir comme s'il était leur Dieu. Et on voit par cette démonstration de puissance depuis quelques mois que Dieu montre que c'est lui le vrai peuple, le vrai maître du peuple. Et dans un certain sens, Israël a toujours un maître, mais ce maître est bon. Et en Égypte, le maître, le pharaon, cherchait à les faire mourir. alors que Dieu, leur nouveau maître, les a délivrés pour la vie. Et on voit ce parallèle magnifique entre la dureté et la violence du Pharaon et la bonté et la grâce de Dieu. Dieu qui nous délivre pour que nous le servions. Et encore une fois, l'ordre est important. Dieu nous délivre pour que nous le servions. Dieu n'attend pas qu'on le serve pour nous délivrer. Et une autre chose intéressante à noter, c'est que Dieu demande un engagement total avant de donner les détails. Nous, on a du mal avec ça. Si quelqu'un nous demande « Tu veux bien m'aider demain ?» On lui dit « Oui, mais ça dépend pourquoi. » Si on doit l'aider à finir les restes de lasagne, pourquoi pas ? Si on doit l'aider à déménager le piano de la grand-mère, même s'il y a les lasagnes derrière, je ne suis pas sûr. Dieu demande une obéissance totale avant de donner les détails. Et comme on le verra, le peuple va s'engager à faire tout ce que Dieu a demandé. Appartenance. Dieu délivre son peuple pour qu'il lui appartienne. Et si on remonte un peu dans notre Bible, on voit que ça fait écho à la promesse que Dieu avait faite à Abraham. La promesse qu'il avait répétée à Moïse. Je vous lis, c'est dans le chapitre 6 du livre de l'Exode. Je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux pénibles dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de la servitude à laquelle ils vous soumettent. Et je vous rachèterai par la force de mon bras et par de grands jugements. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple et je serai votre Dieu. Et vous reconnaîtrez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai affranchi des travaux pénibles dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Ce que Dieu est en train de faire, c'est la promesse qu'il avait faite à Abraham. La promesse qui avait été répétée à la fin du livre de Genèse. Et on avait vu que c'est ça qui préparait le livre de l'Exode. Si le livre de l'Exode parle de la délivrance du peuple, c'est parce que Dieu est en train d'accomplir ses promesses. Et le mot que Dieu emploie ici, le mot hébreu, c'est un mot qu'on n'avait déjà pas entendu, parce qu'on ne l'a pas fait en hébreu, mais on l'avait déjà vu quand on avait fait la prédication à la rentrée sur le don que David fait pour la construction du temple. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans 1 Chronique 29. En fait, ce mot-là, il est employé pour parler du trésor royal. Et c'est le mot qui avait été employé lorsque David vient donner tout ce qu'il possède, tout son trésor, pour la construction du temple. Ce même mot, c'est ce mot qui est utilisé que Dieu emploie pour parler du peuple. Dieu est en train de dire « Vous êtes mon trésor royal ». Et ça veut dire deux choses. Ça souligne la valeur du peuple que Dieu vient de délivrer. Et ça souligne aussi que ce trésor-là, il appartient au roi. Et un peu plus tôt dans le livre, Dieu dit au Pharaon par la bouche de Moïse, « Israël est mon fils premier-né. Et si tu ne laisses pas aller mon fils premier-né, je vais tuer ton fils premier-né. Israël est mon fils premier-né. » Et on voit dans ce passage, même si toute la terre lui appartient, Dieu choisit Israël pour son peuple. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que c'est un peuple qu'il mérite ? Non. C'est la bonne réponse. Est-ce que c'est à cause de sa grandeur ? Non. Au contraire, on le voit dans Deutéronome. On dit, c'est pas à cause de votre grandeur, vous êtes même le plus petit de tous les peuples. Non, pourquoi Dieu délivre son peuple? Parce qu'il l'aime et parce qu'il tient ses promesses. Tout ce qui motive Dieu à nous délivrer est en lui, pas en nous. Et quand Dieu nous délivre, ça dit quelque chose de lui, pas de nous. La seule chose que méritait le peuple, la seule chose qu'on mérite, c'est de continuer à être esclave. mais Dieu montre sa puissance, sa gloire et sa grâce quand il nous délivre. Il nous délivre pour qu'on lui appartienne. Et ça aussi, c'est un des grands principes de la Bible, un des grands principes du message de l'Évangile. Dieu ne nous aime pas parce que nous avons de la valeur. Nous avons de la valeur parce que Dieu nous aime. Dieu ne nous aime pas parce que nous avons de la valeur. Nous avons de la valeur parce que Dieu nous aime. Quatrième aspect, la sainteté, au verset 6. Dieu, dit à Moïse, a délivré son peuple pour qu'il devienne un royaume de prêtres, une nation sainte. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette notion de sainteté, elle regroupe deux éléments. La première, c'est d'être mis à part, séparé du reste pour servir Dieu. La sainteté, c'est pas juste se préserver du péché, c'est se préserver du péché pour servir Dieu. Se consacrer, c'est se mettre au service de Dieu. Et on va le voir dans les chapitres qui vont venir. Notamment tout ce qui concerne les prêtres et le tabernacle. Et on voit que dans le tabernacle, il y avait des ustensiles qui étaient consacrés à Dieu. Est-ce qu'ils avaient quelque chose d'extraordinaire en eux-mêmes? Non. Mais ils avaient été faits pour ça. Ils n'avaient été faits que pour le culte de Dieu. On ne pouvait les utiliser pour rien d'autre. Et quand Dieu nous demande de nous consacrer, c'est cela dont il parle. Ne faire rien d'autre que l'adorer. Être mis à part, séparé du péché pour servir le Dieu saint. Et le deuxième aspect qui concerne les prêtres, c'est qu'ils représentaient Dieu auprès du peuple. Et en disant ici au peuple tout entier qu'ils devaient devenir des prêtres, Dieu dit aux Israélites qu'il voulait que la nation en entier reflète sa gloire auprès des autres nations. Et là encore, on entend un écho à la promesse d'Abraham. Je bénirai toutes les nations par toi, par ta descendance. Par son adoration et par sa sainteté, le peuple d'Israël devait témoigner de la gloire, de la grâce de Dieu. Et quelque part, Israël devait remplir la mission qui avait été donnée à Adam de remplir toute la terre de sa gloire, mais Adam avait échoué. Et là, Dieu demande au peuple d'Israël de remplir toute la terre de sa gloire. Et on va voir si ça réussit. Après tout cela, après tout ce que le peuple entend, que répond-il? Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. Sur le papier, c'est une bonne réponse. C'est la bonne réponse. Et c'est la seule réponse d'ailleurs. Tout ce que Dieu a dit, nous le ferons. Quand Dieu dit quelque chose, il faut le faire. Mais on va avancer quelques chapitres plus loin, quelques temps plus loin, quelques mois plus tard, on va voir que le peuple échoue. On va voir que le peuple qui s'était engagé tous ensemble à faire tout ce que Dieu avait dit va désobéir, va construire un veau d'or. Au lieu de se consacrer à l'Éternel, ils vont tomber dans l'idolâtrie. Ils vont vite oublier ce qu'ils ont dit à Dieu. Et en fait, quand on regarde l'histoire, on voit que ce fils premier-né que Dieu avait choisi, que Dieu avait délivré, que Dieu avait consacré, il échoue. Et on voit que Adam a échoué. On voit que Israël a échoué. Et Israël, plus tard, même sera amené en exil. Israël va revenir d'exil. Et Israël va encore échouer. Et on arrive à la fin de l'Ancien Testament. Et il n'y a personne qui a pu remplir la mission de Dieu, de le servir avec joie, amour, et de témoigner de sa gloire sur la terre. Mais un deuxième fils apparaît. Un fils parfait. Jésus-Christ, le Fils bien-aimé de Dieu. Celui qui obéit à notre place. Celui qui a fait ce que Adam ne pouvait pas faire. Celui qui a fait ce que Israël ne pouvait pas faire. Celui qui a aussi été tenté dans le désert. Mais là où Israël a échoué, Jésus a obéi. Là où le peuple a désobéi, Jésus a obéi. Et le Nouveau Testament nous montre comment nous, les chrétiens, nous sommes le peuple de Dieu grâce à l'œuvre de Christ. Et j'aimerais vous lire deux textes dans le Nouveau Testament, pas la peine de les prendre, vous pouvez les noter si vous voulez. Le premier, c'est dans Tite, chapitre 2, verset 14. « Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. » Deuxième texte, dans 1 Pierre, un livre qu'on verra ensemble un peu plus tard cette année. « Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. » Un sacerdoce, c'est l'ensemble des prêtres. « Une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Dans ces deux passages, on entend le même vocabulaire et on entend les mêmes thèmes que notre passage de ce matin. Délivrance, appartenance, obéissance et sainteté, royaume de prêtres. En Christ, nous dit la Bible, nous avons été délivrés du péché pour servir Dieu et pour annoncer sa grâce. Et notre sainteté doit être la preuve que nous appartenons à Dieu. Notre vie d'obéissance et d'adoration doivent manifester la gloire de la grâce de Dieu qui nous a rachetés. Le livre aux Éphésiens, la lettre aux Éphésiens, dit même que quand les anges et les autorités célestes plongent les regards sur l'Église, sur le peuple racheté de Dieu, elles voient la sagesse infinie de Dieu. Au début d'Éphésiens aussi, Paul nous dit qu'on a été racheté afin de célébrer la gloire de sa grâce. Et c'est Christ qui accomplit parfaitement la promesse qui avait été faite à Abraham. Et c'est en Christ que le peuple de Dieu peut devenir cette nation qui est en bénédiction à toutes les nations. Tous ceux qui appartiennent à Christ ce matin sont des bénédictions pour tous ceux qui les entourent. En regardant notre vie de sainteté, d'adoration, les gens devraient voir la grâce et la gloire de Dieu qui nous a rachetés. Je lis la deuxième partie du texte, les versets 9 à 25, Exode 19. 9 à 25. Et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je vais moi-même venir vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, consacre-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements. » Qu'il soit prêt pour le troisième jour, car le troisième jour, sous les yeux de tout le peuple, l'Éternel descendra sur le mont Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout autour de la montagne et tu diras, gardez-vous bien de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Tout homme qui touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le transpercera de flèches. Qu'il s'agisse d'un animal ou d'un homme, il ne vivra pas. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront vers la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il consacra le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours. Ne vous approchez d'aucune femme. » Le matin du 3e jour, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut épouvanté. Moïse fit sortir le peuple du camp pour aller à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi, l'Éternel descendit sur le mont Sinaï au sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse à y venir et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, « Descends avertir le peuple de ne pas se précipiter vers l'Éternel pour regarder, car un grand nombre parmi eux mourrait. Que les prêtres qui s'approchent de l'Éternel se consacrent aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. » Moïse dit à l'Éternel, « Le peuple ne pourra pas monter sur le mont Sinaï, puisque tu nous as toi-même donné cet avertissement. Fixe des limites autour de la montagne et déclare-la sacrée. » L'Éternel lui dit, « Vas-y, descends, tu monteras ensuite en compagnie d'Aaron. Quant aux prêtres et au peuple, qu'ils ne se précipitent pas pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. » Moïse descendit vers le peuple et lui parla. Deuxième partie du texte, quand Dieu révèle sa gloire et sa puissance, répondons par la révérence. Quand Dieu révèle sa gloire et sa puissance, répondons par la révérence. Alors, qu'est-ce que c'est la révérence? C'est un mot qu'on n'utilise plus beaucoup en ce moment, à part mon révérend, mais pas chez nous. La révérence, c'est quoi? La révérence, c'est un profond respect mêlé de crainte. Un profond respect mêlé de crainte. Dans un mot, on a beaucoup de sens. Et Dieu a fait venir le peuple à lui. Il l'a dit, il l'a transporté. Je vous ai fait venir jusqu'à moi. Et ici, on voit que Dieu va venir au peuple. Et dans ce passage, on a aussi un autre principe important de la Bible. On voit que toutes les religions tentent d'aller vers Dieu. Que les hommes tentent de s'approcher toujours plus près de Dieu. Et dans la Bible, on voit que c'est Dieu qui s'approche de nous. C'est Dieu qui vient à nous. Et dans tout le passage, on remarque que Moïse sert d'intermédiaire, de médiateur. Médiateur, c'est celui qui fait le lien entre Dieu et le peuple. On voit aussi que Moïse, malgré son âge, était assez en forme. Alors, on ne sait pas combien de temps il met à chaque fois, mais il fait beaucoup d'allers-retours. Il va voir Dieu, il va voir le peuple, il rapporte les paroles du peuple à Dieu, il rapporte les paroles de Dieu au peuple, etc. Et dans le passage, Dieu demande au peuple, alors si on remarque bien, c'est qu'il s'adresse encore une fois aux responsables du peuple, et les responsables le rapportent au peuple, comme on l'a vu avec Jean-Noël la semaine dernière. Et leur demande de se préparer. Il leur donne 3 jours pour se consacrer, pour laver leurs vêtements. Alors, il devait y avoir la queue un peu aux sources. Peut-être qu'ils devaient faire encore quelques kilomètres pour revenir aux sources, pour laver leurs vêtements. Et si le peuple doit laver ses vêtements, c'est pour marquer le respect. C'est pour que l'extérieur témoigne d'une attitude intérieure. Les vêtements en soi ne sont pas aussi importants que ce qu'ils devraient représenter. Et le peuple a 3 jours pour se préparer à la venue de Dieu. Je ne sais pas l'ambiance qui régnait dans le camp. Ça devait être une ambiance mélangée d'excitation, peut-être de peur, Dieu va venir vers nous. Et en fait, le peuple doit se préparer comme on se prépare à la venue d'un roi. Le roi de l'univers, celui qui nous a délivrés, va venir nous rencontrer. On voit ici un autre principe. On ne s'approche pas de Dieu avec nonchalance. L'Église contemporaine parfois oublie que le Dieu qui est descendu au mont Sinaï, c'est le même Dieu aujourd'hui. C'est un Dieu qui est parfaitement saint, un Dieu qui est parfaitement glorieux. Et parfois, on le traite comme un pote avec qui on va manger une pizza, parfois même comme le livreur de pizza. C'est le roi des rois. C'est le Seigneur de l'univers. C'est celui dont la voix fait trembler les montagnes. C'est celui dont la voix dénude les cimes des arbres. Nous lui devons révérence. Dieu dit à Moïse qu'il vient dans la nuit épaisse, verset 9. Et quand Dieu manifeste sa présence de cette manière, on parle de théophanie. On va expliquer le mot, parce que c'est un mot qu'on va employer un peu plus tard encore. Théophanie, ça vient du grec théo, ça veut dire Dieu, et phan, qui veut dire apparition. Donc théophanie, c'est juste un mot qui nous aide à dire simplement une apparition de Dieu. Si vous ne le retenez pas, ce n'est pas grave, mais au moins vous saurez ce que ça veut dire. Il y en a beaucoup de théophanie dans le livre de l'Exode. Quand Dieu manifeste sa présence et sa sainteté sur la montagne à Moïse en Exode 3, par le buisson ardent. Et ici, on voit que Dieu manifeste sa présence par plusieurs signes. Il manifeste sa présence par un nuage, une nuée épaisse. Mais Dieu n'est pas un nuage. C'est important de le savoir. Dieu n'est pas un nuage. Si vous voyez un nuage ou même une tempête, c'est pas Dieu. Mais il manifeste sa présence, parce que Dieu est invisible. Il manifeste sa présence par cette tempête qui va venir. Et les éléments que Dieu choisit pour manifester sa présence montrent quelque chose de Dieu. La nuée épaisse montre le mystère de Dieu, montre qu'on peut connaître personnellement Dieu, mais qu'il demeure mystérieux. Dieu montre qu'il est présent dans un nuage, mais en même temps, il se voile dans le nuage. Il se montre et il se voile en même temps. Et le peuple doit se préparer à rencontrer Dieu, mais il doit se tenir à distance. Il ne peut pas monter vers Dieu. Il ne peut même pas toucher la montagne. Et le texte nous dit qu'il doit même attendre le son de la trompette pour dire « C'est ok, maintenant vous pouvez vous avancer un petit peu, mais pas trop. » Pourquoi ? Parce que sinon, vous allez mourir. Tous ceux qui touchent la montagne doivent mourir. Quand j'ai lu ça, j'ai été choqué. De la même manière quand Ouzia rattrape l'Arche de l'Alliance et qu'il meurt. Pourquoi ? Et les instructions et la peine qui s'attache à la désobéissance nous montrent aussi la gravité et la sainteté de Dieu. Il est absolument saint. Et il est tellement saint que entrer dans sa présence, ça veut dire mourir, comme on le verra un peu plus tard. Et on voit ici aussi un principe qui sera développé dans le reste du livre, dans tous les chapitres qui suivent, et particulièrement dans les derniers chapitres quand on nous parle du tabernacle. C'est Dieu qui fixe lui-même les termes de notre culte. Nous, on n'a pas à imaginer ce que Dieu voudrait. On n'a pas à imaginer la manière dont Dieu voudrait qu'on le serve. C'est Dieu qui nous le révèle dans sa parole. Et si Dieu ici parle au peuple, c'est pour lui dire comment le peuple peut s'approcher de lui. C'est lui qui fixe ce qui est permis, c'est lui qui fixe ce qui est requis. Et on voit que le culte, ce n'est pas une affaire d'imagination, mais d'obéissance. Et on voit que le troisième jour, Dieu descend sur le Sinaï. Pas un enregistrement d'époque. J'hésitais à mettre un peu d'estroboscope, mais je me suis dit, s'il y en a qui sont épileptiques, ça va mal se passer. On entend des coups de tonnerre, des éclairs, un son de trompe. Et le texte nous dit que toute la montagne est en fumée parce que Dieu est descendu dans le feu. On voit qu'il y a un tremblement de terre et que tout tremble. La montagne tremble et tout le peuple tremble et même Moïse tremble d'épouvante. On le lira dans le Nouveau Testament. Et toutes ces descriptions-là, elles nous parlent de théophanie. L'orage, les éclairs manifestent la puissance de Dieu. Le feu manifeste sa sainteté. Il y a quelques mois, avec Alexandra, mon épouse, nous sommes allés à Listal, une petite ville près de Bâle. Ils ont une coutume intéressante pour le carnaval. Je ne sais pas si vous êtes y allé. Moi, c'est la première fois que j'y allais. Et en fait, c'est assez impressionnant. C'est des rues assez étroites et des centaines, des milliers de gens sont entassés dans les rues le long des murs. Pourquoi ? Parce que pendant plus d'une heure, des chars traversent toute la ville, des chars enflammés. Et on voit de loin les chars passer sous la porte de la ville et s'approcher petit à petit de nous. On voit le feu qui arrive, on voit la chaleur qui monte, on sent les odeurs de kérosène, de bois brûlé. Et quand le char se rapproche, il est à un mètre de nous, tout le monde se recule et tout le monde se tasse contre les murs. Et tout le monde se couvre le visage, parce que c'est chaud. Et parce qu'il y a des choses qui volent dans nos cheveux, pas dans les miens. Mais ceux qui ont des cheveux les couvrent. Je pourrais vous l'expliquer longtemps. Je pourrais vous donner beaucoup de détails. Je pourrais vous montrer des vidéos. Je pourrais vous montrer beaucoup de photos. Mais pour le comprendre, il faut le vivre. Et c'est pareil avec les théophanies. Les théophanies ne nous montrent pas des images que l'on peut dessiner à l'école du dimanche. C'est des expériences que l'on doit vivre. Et c'est une expérience qu'a vécu le peuple. Le peuple tremble, on l'a dit, la montagne tremble, tout tremble. Et on l'a lu avec le psaume 29, « La voix de l'Éternel fait trembler la terre entière ». On ne peut pas faire l'expérience de la présence de Dieu et rester indifférent. Quand Dieu se manifeste, il nous transforme. Quand on rencontre Dieu, ou plutôt quand Dieu vient à notre rencontre, on ne peut pas rester indifférent. Et ce passage soulève aussi un paradoxe intéressant. Plus Dieu est proche, plus il nous dépasse. Et je lis ce qu'a dit un commentateur. Il dit, plus il s'approchait, plus clairement apparaissait la vaste distance qui les séparait de Dieu. Et en même temps qu'il se révélait, il s'occultait. Plus il faisait l'expérience de son immanence, ça veut dire que Dieu est proche, plus il reconnaissait sa transcendance, ça veut dire que Dieu nous dépasse. Plus Dieu est proche, et plus on voit qu'il nous dépasse. plus on s'approche de la montagne et plus on voit que la montagne est grande. Et Dieu demande à Moïse de redescendre pour avertir le peuple. Le peuple ne doit surtout pas s'approcher de la montagne. Dieu va le répéter 3 fois à Moïse. Pourquoi ? Parce que s'ils s'approchent de la montagne, ils vont mourir. Et Moïse a dit, mais pas la peine. Tu nous l'as déjà dit. On l'a déjà entendu. Je l'ai déjà dit au peuple. Moïse dit, descends quand même. Dieu dit, descends quand même. Parce que Dieu sait que le peuple a une très grande facilité à oublier ce que Dieu dit. Et que le peuple a une très grande facilité à oublier ses engagements. Et aussi peut-être que ce spectacle qui est à la fois effrayant mais fascinant, comme le racontait Jean-Jacques. Quand on voit un orage, on a à la fois envie de se réfugier et de pouvoir l'observer, mais on a aussi envie de le vivre, on a envie d'y aller presque. Et on sait qu'il y a un danger, mais on a envie d'y aller. Peut-être que le peuple aussi vivait ça. Il voulait s'approcher. Il voulait voir Dieu de plus près. Mais Dieu leur dit, si vous vous approchez, vous allez mourir. Dieu envoie Moïse pour avertir le peuple. Moïse est le médiateur entre Dieu et son peuple. Et nous aussi, on a besoin d'un médiateur pour nous approcher de Dieu. Et même si Moïse avait une relation unique avec Dieu, on le verra dans les chapitres prochains. Même si on lit que Moïse parlait à Dieu et que Dieu lui répondait, il fallait un médiateur parfait. Et on voit que le peuple tremble, que le peuple est dans la crainte et dans l'effroi. Et encore une fois, c'est la réponse appropriée à la manifestation de la puissance et de la gloire de Dieu. C'est ce que le peuple devait faire. Mais on verra que cette crainte est passagère. On verra que cette crainte ne va pas empêcher le peuple d'oublier ses engagements. Et on voit que plus tard, Jésus est le médiateur parfait. Jésus, c'est celui qui nous permet de nous approcher de Dieu avec assurance. C'est celui qui nous permet de nous approcher de Dieu et de son trône avec confiance. Et pour conclure, j'aimerais lire un texte dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12. Si vous avez une Bible blanche, c'est la page 795. Sinon, c'est un peu vers la fin. Hébreux 12, je vais lire les versets 18 à 29. Hébreux 12, 18 à 29. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles. Ce bruit était tel que ceux qui l'ont entendu ont refusé qu'il leur soit adressé un mot de plus. Ils ne supportaient pas, en effet, cette consigne. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Le spectacle était si terrifiant que Moïse a dit « Je suis épouvanté et tremblant de peur. » Au contraire, vous, vous êtes approchés du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et ses dizaines de milliers d'anges en fait, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Vous êtes approchés de Dieu qui est le juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus, qui est le médiateur d'une alliance nouvelle et du sang purificateur, porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Faites attention. Ne refusez pas d'écouter celui qui parle. En effet, les hommes qui ont rejeté celui qui les avertissait sur la terre n'en ont pas réchappé. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut du ciel, lui dont la voix avait alors ébranlé la terre. Il a maintenant fait cette promesse. Une fois encore, je fais trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Une fois encore, indique bien que les choses qui appartenant au monde créé peuvent être ébranlées, disparaîtront, afin que celles qui sont ébranlées subsistent. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec piété. Notre Dieu est en effet un feu dévorant. Et si on lit le début du chapitre 12, on voit que l'auteur de la lettre aux Hébreux, et c'est le thème qui traverse toute la lettre en fait, il écrit à des chrétiens pour les encourager à persévérer dans la sainteté, même au milieu de la souffrance, et à garder les yeux sur Jésus. À persévérer même au milieu de la souffrance et à garder les yeux sur Jésus. En se débarrassant du péché qui nous environne si facilement et qui retient notre course. Mais c'est peut-être votre cas ce matin. Peut-être que vous êtes environné par le péché. Peut-être que vous êtes entravé par le péché. Mais l'auteur aux Hébreux nous dit confiance. Confiance. Et l'auteur fait un parallèle entre le mont Sinaï et la montagne de Sion. Entre Moïse et la première alliance et Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance. Et il dit, c'est avec assurance que nous pouvons nous approcher de Dieu grâce à Jésus. Mais dis attention, cette assurance ne doit pas enlever notre révérence. Dieu reste le Dieu de gloire. Dieu reste un feu dévorant. Nous devons lui rendre un culte qui lui soit agréable, avec piété et crainte. Assurance d'un côté, une vraie assurance, et révérence de l'autre, une vraie révérence. Et l'auteur nous dit qu'un jour, ce Dieu qui a fait trembler la terre au mont Sinaï reviendra pour faire trembler toute la terre. Et si on lit les descriptions du retour de Jésus dans les petits apocalypses, par exemple dans les passages de Matthieu où Jésus raconte comment il va revenir, dans les passages d'un Pierre qu'on lira aussi, où il raconte comment Jésus reviendra pour juger la terre, à chaque fois on voit qu'il vient dans les nuées, comme dans Exode 19, qu'il fera trembler la terre, comme dans Exode 19, mais que cette fois, il s'approchera pour juger la terre. En attendant, nous dit le texte, écoutons sa voix et obéissons-lui avec révérence. Parce que Dieu révèle sa délivrance et sa puissance, servons-le avec révérence. Parce que Dieu révèle sa délivrance et sa puissance, servons-le avec révérence. Je vous invite à prier. Merci Père éternel, Dieu de gloire, roi de rois, Seigneur des seigneurs, merci parce que tu te révèles à nous, parce que tu viens jusqu'à nous, parce que tu es venu jusqu'à nous en Jésus, parce que tu es venu jusqu'à nous dans un homme. Non pas pour nous faire trembler, mais pour que nous puissions nous approcher de toi avec confiance et avec assurance. Merci parce que la distance qui nous sépare de toi, que nous ne pourrons jamais franchir, toi tu l'as franchie. Et c'est toi qui es venu, c'est toi qui t'es approché. Merci parce que, alors que le peuple de l'ancienne alliance ne pouvait pas s'approcher de cette montagne, nous pouvons nous approcher de toi en Jésus. Merci pour ton salut plein de grâce. Merci pour ta délivrance. Et Seigneur, nous voulons dire avec confiance que nous voulons t'obéir et écouter ta voix. Parce que nous savons que ce n'est pas la condition pour que tu nous acceptes, mais parce que Jésus a parfaitement obéi. Et qu'en lui, nous sommes au bénéfice de son obéissance. En lui, nous pouvons venir à toi. Merci pour la manifestation de ta gloire par la croix, par la résurrection, par l'ascension. Jésus règne au-dessus de tout. Et c'est ce Dieu de gloire que nous adorons ce matin. Et nous voulons, Seigneur, t'adorer avec crainte et respect. Nous voulons nous approcher avec humilité, mais avec assurance. Nous voulons t'obéir avec révérence. Nous voulons te glorifier, Seigneur. Merci parce que ce matin, nous avons vu, entreaperçu, ta gloire magnifique et ta grâce surabondante envers nous, Seigneur. Que ton nom soit loué pour ta gloire. Amen.